CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Que puis-je faire pour mon enfant malade ?» Bonjour à tous.
Bonjour Yveline.
Pasteur Donato Anzalone, bienvenue encore sur le plateau de Bonjour chez vous.
Et bonjour Yveline et bonjour à chacun. Quelle joie d'être avec vous.
Ça va bien?
Oui, très bien, en
super.
Forme.
Merveilleux, merveilleux. Prêt pour une bonne émission puissante.
Super.
Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui concerne malheureusement de nombreux parents, même chrétiens, et eh oui, même chrétiens, les enfants malades. Et c'est un vrai déchirement pour le cœur des parents qui... à mon avis, feraient tout pour pouvoir prendre la place de leur enfant, mais qui ne le peuvent pas malheureusement et qui souvent se sentent impuissants et ont bon utiliser la foi et la parole de Dieu, ont l'impression que les choses ne bougent pas. Et on va essayer à la maison, si c'est votre cas, de vous encourager, de vous donner des conseils. Et puis en fin d'émission, on va prier pour vous également pour que vous puissiez vraiment recevoir une percée dans la vie de votre ou de vos enfants. Et en deuxième partie d'émission, dans la rubrique « C'est mon histoire », nous aurons le témoignage de Sandrine Rivière, qui est venue tout droit de l'île de la Réunion nous partager comment son fils a été guéri de troubles du comportement, une guérison miraculeuse, donc c'est merveilleux. Et Pasteur Donato, si tu le veux bien, on va commencer tout de suite avec toi dans la pensée du jour.
Well, je suis content d'être avec vous de nouveau. Oui, que faire quand on a un enfant qui est malade à la maison? Je pense que qu'on est en train de parler de cela, on ne parle pas d'un petit bobo, un petit mal de tête, mais quelque chose qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus long aussi. Et dans les maladies, ben, il y a des maladies qui sont chroniques, qui reviennent régulièrement, comme il y a des maladies qui sont incurables, et aussi des maladies qui, malheureusement, peuvent aller jusque au décès de l'enfant. Que faire quand on a un enfant qui est malade chez soi? Ceux d'entre vous qui me connaissent savaient que nous avons une situation similaire. Nous avions une fille qui est née avec un handicap terrible. Elle avait un virus qui a littéralement détruit toute une série de cellules du cerveau, celles qui commandaient le parler, le marcher et la motricité. Et on a dû faire face à de nombreux choix pour nous assurer tout d'abord le bien-être de notre fille, pour qu'elle puisse quand même vivre une vie correctement, même si, comme le disait le médecin, elle était bloquée bloquée assise, hein, elle ne pouvait être que sur une chaise roulante lorsqu'elle devenait grande et tout. Mais nous voulions aussi qu'elle puisse profiter de la vie. Les enfants sont une bénédiction de la part du Seigneur, qu'ils soient en bonne santé ou pas, et on veut être là pour eux. Donc, je pense que beaucoup de personnes comprennent ce de quoi je suis en train de parler. Je reçois beaucoup de témoignages, plutôt de coups de téléphone de personnes qui me téléphonent ou bien qui m'envoient sur Facebook, me demandant de prier pour eux, des conseils et tout, quand ils connaissent l'histoire de Gabriella, pour aller rapidement. Gabriella, elle est guérie, grâce à Dieu. Mais la chose importante est celle-ci. Même si elle n'avait pas été guérie, c'est toujours une bénédiction de la part du Seigneur. Amen. La bonne chose dans notre cas, c'est qu'elle a été guérie. On remercie le Seigneur pour cela. Et donc, je reçois des parents qui téléphonent, qui sont désespérés, mais qui sont encouragés. Parce qu'ils savent qu'il y a moyen de faire quelque chose pour nos enfants, pour leur apporter quelque chose de bien, un bien-être dans la vie. Dans la parole de Dieu, on voit que une attitude à tenir quand nos enfants ne sont pas en bonne santé, c'est une attitude de foi, une attitude où on croit ce que la parole de Dieu dit, mais aussi une attitude d'amour. L'amour, d'après mon expérience dans ma vie, dans ma famille, mais aussi dans d'autres familles que je connais, l'amour est comme l'atmosphère du surnaturel de Dieu. Et j'ai vu beaucoup d'enfants qui sont grandis malades, invalides, handicapés, mais quand ils sont aimés, eh ben, ils sont vraiment heureux. C'est pour ça que je ne comprends pas certaines personnes qui disent « oui, certes, pas dans l'église, mais certaines personnes disent « oui, peut-être qu'il faut peut-être même les empêcher de naître ». Non, un enfant, quand il est aimé, il est heureux. Amen. Hein, il est joyeux, il sait qu'il est aimé. Et donc, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment peut-on faire quand un enfant est malade à la maison? C'est d'ailleurs l'objet de la discussion que nous allons voir ensemble, parce qu'on a besoin d'être encouragés. Et mon témoignage, le témoignage de chacun va nous aider à trouver des bonnes idées de ce qu'il faut faire et aussi de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que très souvent, nous sommes pris d'un enthousiasme et les gens autour de nous sont tellement enthousiastes et alors il y a les uns et les autres qui, par un zèle énorme, font plus de troubles et de difficultés à l'enfant que de bien. Donc, voyons ensemble.
Oh, merci, pasteur Donato. C'est vrai, vous avez un témoignage merveilleux avec votre épouse Annelise. Hein, vous étiez venue dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et si à la maison, vous n'avez pas encore entendu ce témoignage, je vous invite à aller vraiment l'écouter. C'est tellement édifiant. Sur emcitv.com, vous pouvez trouver le témoignage du pasteur Donato. Et effectivement, ta fille Gabriella, qui malheureusement est née avec un lourd handicap, quelque chose de très sérieux qui n'avait normalement, qui était incurable, qui n'avait même une issue vraiment pas favorable mortelle. Pour elle, mortelle exactement. Eh bien aujourd'hui est une jeune fille en parfaite santé, qui réussit dans ce qu'elle fait, qui sert le Seigneur, et ça c'est Dieu qui le fait.
Ouais.
Et ça a été une guérison progressive que vous avez vécue. Et donc, je trouve que tu es la personne idéale pour nous parler de ce thème, parce que tu as vécu le moment de la pose du diagnostic, tu as vécu les moments de déception peut-être, et tu as vécu surtout les moments où tu as vu Dieu commencer à se manifester petit à petit dans le corps, le petit corps de ton enfant, jusqu'au premier pas, jusqu'au premier mot, etc., jusqu'à une guérison complète. Et c'est des moments qui sont précieux, et on a des parents qui nous écoutent et qui se disent « Je veux vivre ces moments, moi aussi, je veux les vivre ». Et on va essayer de trouver des moyens de permettre aux gens de traverser au mieux cette épreuve de la vie que vraiment on souhaite à personne, qui est vraiment douloureuse. Et avant de commencer dans le vif du sujet, on va regarder notre verset du jour, qui est l'histoire de cette femme, hein, syrophénicienne, qui vient demander à Jésus de venir, qui vient guérir sa fille qui a besoin d'une délivrance. Et Jésus refuse. Jésus lui dit, tu n'es pas juif, tu ne fais pas partie du peuple. Et il lui parle de ne pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Et là, elle dit cette parole de foi, en fait, qu'on peut peut-être pas comprendre au premier abord, qui dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Et Jésus lui répond, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille, dans Marc 7, 29. Et à cause de cette parole, et cette parole de foi qu'elle a eue a amené la guérison, la vie dans le corps de son enfant. Et aujourd'hui, on a des parents qui ont besoin aussi d'avoir ces paroles de foi, de continuer à croire malgré les circonstances, malgré l'état de santé de leur enfant, de continuer à croire jusqu'à la percée qui soit progressif, comme dans le cas de Gabriella, soit instantané, comme dans le cas de la fille de la femme syrophénicienne. Mais l'objectif, c'est surtout que Dieu puisse se glorifier dans cette situation. Et pasteur Donato, pour commencer, tu nous disais que tu as rencontré un jour un homme de Dieu qui t'a demandé de prier pour son fils.
Ouais.
Et la raison était vraiment triste.
Sa motivation était triste, en effet. Il vient vers moi et me dit, pasteur Donato, priez pour mon enfant, parce qu'il est handicapé. Et c'est une honte pour mon ministère. Je le regarde et je me dis dans ma tête, une honte? Mais moi aussi, j'ai un enfant handicapé. À l'époque, Gabriel était handicapé. Et ce n'était pas une honte pour mon ministère. La Bible est claire avec ça. Les enfants sont une bénédiction, de Dieu, un héritage, une récompense de l'Éternel. Et il n'est pas marqué les enfants en bonne santé. Hein. C'est les enfants, un point, c'est tout.
C'est vrai.
Et en fait, on comprend bien que c'était la motivation qui n'était pas correcte. Et donc, je lui ai dit, mais ce n'est pas pour votre fils que je dois prier, c'est pour votre tête.
Excellente réponse.
Amen. Et j'espère qu'il m'écoute là. J'espère qu'il a réfléchi un petit peu là-dessus. Comme je le disais auparavant, même si Gabriella n'avait pas été guérie, cela ne change pas. D'abord, qu'elle est une bénédiction de la part du Seigneur. Amen. Hein? Et cela n'aurait jamais changé le fait que, de toute façon, c'est quand même la volonté de Dieu guérir. Des fois, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas quelque chose qui s'est passé. Mais on sait que sur la croix, Jésus a pourvu pour la guérison.
Amen.
Oui, et donc, cet homme a agi vis-à-vis de son enfant d'une manière tellement terrible. J'ai connu malheureusement l'histoire d'une autre situation, un autre serviteur de Dieu dans un autre pays, c'était pas en francophonie, donc n'allez pas chercher quel est le pasteur francophone ou quoi, mais qui lui avait un enfant handicapé. Il était en chaise roulante. Et au tout début, prier, ça ne fonctionnait pas. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant grandissait, quand il avait 10, 12, 13 ans, ils ont commencé à rejeter la responsabilité sur l'enfant. C'est ta faute si tu es comme ça. Tu n'as pas assez de foi.
Oh non.
Et c'est malheureusement arrivé jusqu'au but où cet enfant s'est ôté la vie.
Oh, c'est pas vrai.
C'est terrible.
C'est affreux.
Voyez-vous, ça, des choses qu'on doit éviter.
Vraiment.
Nos enfants,
aïe, aïe, aïe.
Ils sont là. Ils ont besoin de papa.
Mm-hmm.
Mais même quand un enfant de la vie de tous les jours fait une bêtise, mm-hmm. papa doit être là, maman doit être là pour l'encourager, pour lui dire, écoute, c'est pas grave, on va aller plus loin, on va recommencer. On va... Non, là, ils ont voulu se décharger parce que, de nouveau, pour eux aussi, c'était entre guillemets une honte.
Oui, c'est ça.
Ouais, nos enfants ne doivent jamais être une honte. Moi, je suis fier de tous mes enfants, qu'ils étaient en bonne santé ou qu'ils n'étaient pas en bonne santé. Mm-hmm. Ça n'a jamais été un problème pour moi. Parce que de toute façon, c'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu qui guérit.
Amen, amen. Mm-hmm. Ça, c'est important que les parents comprennent ça. Parce qu'en tant que parents, on nourrit notre enfant, on prend soin de notre enfant, on a la responsabilité de notre enfant. Et quand l'enfant est malade, on a tendance à vouloir, encore une fois, être la solution pour notre enfant. Mmh. Alors, on peut être la solution en ayant la foi, mais on ne peut pas guérir l'enfant. Et c'est important de se décharger, parce que parfois, les parents portent tellement une lourde charge pour obtenir la guérison, ils mettent tous leurs efforts pour obtenir la guérison pour leur enfant, qu'ils oublient qu'en fait, ils doivent se reposer sur Dieu. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de super important, parce qu'on ouvre des portes à des oppressions terribles, sinon... On se sent une responsabilité qui n'est pas la nôtre. On ne peut pas guérir notre enfant, effectivement, et c'est important que tu le dises, Pasteur Donato.
En fait, on se met souvent des pressions inutiles.
Mm-hmm.
On pense que tout, c'est nous. C'est nous qui devons... Nous, ce qu'on doit faire, c'est de nourrir nos enfants.
Mm-hmm.
De les nourrir physiquement, mais aussi spirituellement. Mm-hmm. De leur parler de Dieu. Quand Gabriela était bébé, nous lui parlions de la parole. Mm-hmm. Nous lui disions, Gabriela, elle était bébé, elle comprenait, elle parlait même pas. Mm-hmm. Je dis, mais Gabriela, tu parles. Gabriela, tu marches. Mm-hmm. Gabriela, par la meurtrissure de Jésus, tu es guérie.
Amen.
Certains disent, mais elle comprend pas. Son intelligence ne comprend pas. Mais son esprit comprend.
Mm-hmm.
La Bible dit dans Romains au chapitre 6, quand j'étais un enfant, j'étais vivant pour Dieu. Ensuite, est arrivée entre guillemets la loi, c'est-à-dire on peut dire la conscience, et mon âge d'innocence est parti. Mais avant, la Bible est claire, l'esprit des enfants est vivant pour Dieu.
Amen.
Donc, dans son esprit, nous lui parlions. Mm-hmm. Et donc, nous la nourrissions certainement physiquement, mais spirituellement, mais aussi on lui donnait des paroles d'affirmation. Jamais on s'est dit l'air de dire, mais enfin, petit idiot, tu n'arrives pas à t'asseoir.
Oh là là.
Jamais. Oui, mais il y en a qui le font.
Ouais, ouais.
Ouais, on doit éviter ce genre de choses-là.
Ouais, c'est vrai.
Ça, je pense que évidemment, il y a la frustration qui rentre dans tout ça. Hein. C'est pas que le fond du parent, mais parfois tu deviens tellement frustré, tellement à bout de tout ça. Le pasteur Donato, moi, je connais votre histoire par rapport à Gabriela, mais je sais que vous et votre femme, vous faisiez énormément attention à ce qui sortait de votre bouche, justement. Il n'y avait pas de malédiction qui sortait, il n'y avait pas de... Justement, vous faisiez attention de ne pas parler de l'incrédulité. Mm-hmm. C'était la foi qui était là. Est-ce que ça, vous pourriez en parler un petit peu par rapport aux gens pour qu'ils puissent saisir un peu le langage de la foi?
Oui, oui, absolument. C'est un petit peu ce que je dis. Hein. Je lui disais, tu marches, tu parles, parce qu'on priait pour cela.
Mm-hmm.
On lui donnait des versets bibliques, mais aussi ce que nous faisions, c'est que nous protégions notre foi.
Mm-hmm.
Et on la protégeait de personnes qui ne se mettaient pas en accord avec nous. Par exemple, on est ici, et imaginez-vous que je dis, oh, vous savez, Gabriela, elle est malade, mais je crois que Jésus l'a guérie. Et puis Nadine, c'est pas le cas, mais disons qu'il dit, enfin, Donato, tu te rends pas compte, faut t'y habituer, elle sera en chaise roulante toute la vie. Et tout d'un coup, ça peut... Alors, une fois, ça va pas abîmer ma foi. Mais si, comment tous les gens en qui j'ai confiance, que je connais, Pasteur Franck, on se connaît depuis des années maintenant, Aurélie, la même chose, et bien sûr, tout le monde ici, et vous commencez, mais tu sais, Donato, moi, je pense que, tu sais, peut-être que tu exagères un petit peu, tu vises trop haut. À ce moment-là, ta foi, là, risque d'être étouffée.
Oui.
Et on doit protéger notre foi. Mmh. Surtout des gens qui ne savent pas se mettre en accord avec vous.
Mmh. Et même des gens, de la famille. Je dis ça parce que parfois, c'est nos proches peut-être qui n'ont pas le même niveau de foi ou qui ne connaissent pas tout simplement la guérison divine, qui sont appelés à dire des choses comme ça. Il y a des gens qui ont des enfants, qui ont des frères, qui ont des sœurs. Et dans leur propre famille, généralement, on est habitué à s'ouvrir, comme à dire à ta sœur, dire à ton frère. Sauf que vous avez grandi Et peut-être ton frère n'est pas encore au Seigneur et n'est pas encore prêt à accepter, à te dire des paroles de foi, si tu veux. Et on commet souvent l'erreur aussi de dire comme ça. C'est pas qu'il faut cacher forcément les choses, mais c'est vraiment respecter cet environnement dont Pasteur Donato parle. Je le dis parce que moi, j'ai déjà vu, c'était pas le cas d'un enfant, mais des personnes qui s'ouvrent vite à leur famille parce que c'est la famille, mais les paroles qui reviennent, c'est vraiment des paroles de mort. Ce ne sont pas des paroles de vie. Donc, il faut protéger au maximum l'entourage et tout ce
Protéger de l'entourage.
Voilà, il faut se protéger au maximum au niveau de notre entourage.
Absolument. Il y a des charges de la famille, quelquefois. Ils ne le disent pas parce qu'ils ne veulent pas croire avec vous. Ils le disent parce qu'ils ne veulent pas vous voir souffrir.
Aussi.
C'est un petit peu ce qui s'est passé avec la femme de Job. Elle voit son mari souffrir.
C'est vrai.
Elle dit « maudit Dieu » et meurt. Elle pensait que si tu maudis Dieu, ben Dieu, plac, tu prends comme ça. Mais Dieu ne prend pas les gens comme ça, amen. Mais c'était par amour pour son mari. Elle ne voulait plus le voir souffrir. Et quelquefois, on voit la sœur souffrir à cause de l'enfant qui est toujours malade constamment. Elle la voit passer énormément d'heures derrière elle. Elle dit « écoute, c'est peut-être mieux que tu arrêtes et que tu commences à simplement ne plus commencer à croire parce que j'ai peur que tu perds la tête là-dedans. » Et ça aussi, si ça peut arriver. Donc, c'est important. Mais ça n'empêche pas qu'on doit protéger notre foi.
Absolument, absolument. Il y a aussi une notion de culpabilité qui est très importante. Hein. Les parents se sentent coupables de la maladie de leur enfant.
Oui. Ça n'a pas été le cas d'analyser moi, mais nous voyons beaucoup de gens qui sont convaincus que c'est à cause d'eux. Ils ont fait quelque chose de mal. C'est comme si c'est leur faute que l'enfant est malade. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose et que c'est une chose qui s'est reproduite chez l'enfant. Et en fait, c'est une bataille à vaincre. C'est la bataille de la honte et de la culpabilité. Parce que souvent, l'un va avec l'autre.
C'est vrai.
J'ai honte. Comme cet homme-là qui me disait, hein, c'est une honte pour mon ministère, disait-il, le sien, pas le mien. Il dit, donc c'est une honte, mais tôt ou tard, cette honte se transforme en culpabilité. Parce que à la fin, on commence à avoir des remords. Mais dit enfin, mais comment puis-je dire que j'ai honte? Et puis je me dis, mais suite, alors tu vois, j'arrive pas à avoir une réponse à ces prières. Je n'arrive même pas à le supporter parce qu'il y a, je tends le cas de Gabriella. Il faut être honnête, vu qu'elle était handicapée, qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose, ça n'était pas un gros poids pour nous, à part le fait qu'on devait l'aider, bien sûr. Mais il y a des enfants qui, dans leur maladie, sont très difficiles avec leurs parents. Je pense, avec le témoignage de Sandrine tout à l'heure, quand elle parle d'un trouble du comportement.
Oui, c'est ça.
Et là aussi, on se sent coupable. Parce qu'il suffit qu'on gronde trop, et puis, oh, j'aurais pas dû le gronder. Mais c'est aussi une erreur de faire cela, de penser que parce que l'enfant est malade, je dois pas le corriger. Non, l'enfant doit être corrigé. Si mes enfants, tous mes enfants sont excellents, et Gabriella qui est guérie est excellente, mais si elle est excellente, c'est parce que dès le départ, on l'a corrigée. Quand elle faisait des choses qui n'étaient pas justes, on l'a corrigée. Et une de nos erreurs, c'est d'inculquer une faiblesse chez notre enfant. Malade ne veut pas dire faiblesse.
Ok, donc l'importance de le considérer peut-être comme ses frères et ses sœurs, même si les choses peuvent pas être faites.
Voilà.
Mais à notre regard, on est ses parents et c'est notre enfant, au même titre que les autres, c'est ça?
Exactement, exactement. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Oscar Pistorius, qui était le grand athlète sud-africain qui n'avait pas de pied. Parce qu'on a dû les lui enlever. Enfin, c'était toute une affaire terrible. Et il est devenu le premier para-olympique à gagner dans les Jeux olympiques. Les vrais. Avec des lamelles, hein. Malheureusement, il a mal fini sa vie vu qu'il a eu une affaire terrible. Ou selon lui, par accident, il a tué sa fiancée. Mais soit. Mais sa maman disait quelque chose de formidable. Elle disait, tu n'es pas handicapé, tu es simplement différent. Donc réveille-toi un petit peu, lève-toi et fais ton affaire. Et je crois qu'on doit, alors certes, toujours au niveau de l'enfant, on est d'accord avec ça, hein, mais on doit faire attention, à mon avis, de ne pas mettre une pression sur nous pour voir cet enfant à tout prix guéri. J'ai appris que plus on laisse les choses dans les mains de Dieu, plus le Seigneur agit. Nous, on fait confiance en Dieu. Mmh. On continue à croire, on continue à confesser, comme Franck me demandait tout de suite, là. Mmh. Hein. Réglez dans votre cœur, une fois pour toutes, que la culpabilité ne doit pas avoir de place en vous. Mmh. Si vous avez agi de manière même insensée vis-à-vis de votre enfant, demandez pardon à Dieu et allez de l'avant. Mmh. Et même, des fois, demandez pardon à votre propre enfant. Mmh. nous avons grandi, peut-être, nous, ma génération, dans une génération où les parents ne demandaient pas pardon à nos propres enfants. Je vois, Nadine, c'est de quoi je parle. Hein. Ou c'était perdre la face de demander pardon. Well, dans notre famille, gloire à Dieu, en tout cas avec ma femme et moi, on a vite vu qu'il fallait demander pardon à nos enfants quand Absolument. On devait demander pardon à nos enfants. Hein. Et voilà.
Et je pense aussi qu'il y a une notion vraiment d'autorité à saisir en tant que parent. Mm-hmm. Très souvent, on oublie en fait que Dieu nous a confié ces ouais. enfants, mm-hmm. mais qui Dieu nous a confié, ils nous appartiennent d'une certaine façon, et devant le diable, devant la maladie, devant la malédiction, on a une autorité en tant que parent, et on a cette autorité pour justement vaincre cette maladie, non pas par nous-mêmes encore une fois, mais par l'autorité déléguée par la parole de Jésus-Christ, parce que Jésus a accompli à la croix, et les parents peuvent vraiment se saisir de cette autorité dans la vie de leur enfant pour renverser en fait ce qui est en train de se passer. Il y a des choses qui sont vraiment des attaques démoniaques dans la vie des enfants, ouais. et les parents peuvent avoir se saisir de cette autorité pour vaincre ces choses-là.
Mm-hmm. Ouais. Vas-y, Nathan.
Non, tout à fait. Vraiment, quand on parlait, on avait eu une situation à un moment donné avec un de nos enfants, et c'est vraiment ça, c'est de dire, on saisit notre autorité. On refuse, on cherche devant Dieu, Seigneur, révèle-moi cette situation. Et comme Aurélie l'a dit tout à l'heure, ça aussi c'est très important, c'est comme le pasteur l'a dit, c'est que les enfants sont un don. Et dans un couple, vous deux, vous savez que cet enfant-là est un don que Dieu vous a donné. Et c'est à vous de vous en occuper. Mm-hmm. J'ai oublié le terme que j'ai envie d'utiliser. Mais c'est à vous de vous en occuper mm-hmm. jusqu'à ce qu'il grandisse, etc. Et nous, vraiment, c'était un moment donné où est-ce qu'on s'est tenus dans la foi, mon mari et moi. Et il y avait des fois des nouvelles. Ou est-ce que le médecin nous donnait quelque chose, on le donnait pas, on le rapportait pas, même si un membre de famille demandait un update, oui. on gardait certaines informations justement pour protéger notre foi, parce que nous on savait ce qu'on avait reçu de la part de Dieu. Amen. Et il y avait des combats, et à un moment donné, quand l'enfant a grandi, il y avait des choses aussi, on l'associait sa foi aussi par rapport au problème. À un moment donné, elle avait été hospitalisée. Et le médecin est venu, parce qu'ici, je sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais ici, on donne le diagnostic directement au patient. Mmh. Donc, on te dit pas tout aux parents pour que tu le redises à ton enfant dans tes mots, on dit directement à l'enfant. Et quand le médecin a dit à mon enfant, elle a dit c'est pas moi. Elle a refusé, elle a même réagi beaucoup plus rapidement que moi, sa maman, parce qu'elle était vraiment dans cette foi que non, c'est pas son dossier, ça c'est pas mon dossier. Et vraiment, on a vu la main de Dieu qui a agi de façon extraordinaire. Wow. Et vraiment, rappeler aux parents, comme tu as dit, Evelyne, c'est tellement important. Vous avez cette autorité, ne marchez pas dans la culpabilité, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute, votre enfant n'est pas moins enfant parce qu'il vit cette situation-là, mais vous avez l'autorité de vraiment combattre, comme on l'a vu dans le cas de la Bible de cette femme, on l'a vu de ce monsieur dont le fils le fils qui se jetait,
qui se jetait dans le feu.
Oui, épileptique, voilà, c'est ça le mot, qui est allé vers Jésus. Donc vous avez cette autorité d'aller vers le Seigneur avec ce problème et Dieu répond.
Amen. Ouais, je vous propose qu'on regarde maintenant le témoignage de Sandrine Rivière et ensuite, Pasteur Donato, tu pourras prier pour les parents qui nous écoutent pour que leur foi se tienne ferme malgré la situation. Donc je vous propose qu'on regarde ça dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir le pasteur Sandrine Rivière. Bonjour Sandrine.
Bonjour Evelyne.
Ça va ?
Oui, très bien, merci. C'est un honneur d'être là.
Ah ben, honneur partagé, je suis super contente de t'avoir avec nous. Merci. Tu es l'épouse du pasteur Steve Rivière, vous êtes tous les deux en charge de l'école Destinée que beaucoup connaissent et vous êtes également pasteur de l'église extravagante Saint-Denis à l'île de la Réunion qui est une autre église de l'île de la Réunion, extravagance Saint-Pierre avec le pasteur Bruno Picard et désormais église extravagance Saint-Denis à l'île de la Réunion, c'est bien ça ?
Exactement, oui, c'est bien ça, oui.
C'est parfait.
Vous avez trois enfants tous les deux, trois beaux enfants, j'ai même envie de dire, parce qu'ils sont super beaux. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter le défi que vous avez rencontré avec votre deuxième fils, Mathis, qui a eu des troubles de comportement en fait quand il était petit. Et tu vas nous partager surtout comment vous avez obtenu la victoire, celui qu'il est devenu aujourd'hui, comment Dieu vraiment vous a fortifié dans toute cette aventure qui n'a pas été si facile. Tout commence pour vous, donc quand Mathis est tout petit, hein, il a encore 3 mois, vous partez en Afrique du Sud sur le go du Seigneur, en fait, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. Donc on est allé en Afrique du Sud avec nos enfants. Donc il y avait Nathan, notre aîné, et Mathis donc avait 3 mois. Donc effectivement, on est parti par obéissance au Seigneur et en mission là-bas pendant une année.
C'est ça, c'était une année qui n'était pas forcément évidente pour toi parce qu'il a fallu tout quitter. Et puis, donc au bout d'un an, vous rentrez à l'île de la Réunion. Et puis là, tu commences à voir que Mathis ne développe pas le langage qu'un enfant de son âge devrait développer. Mais bon, tu te dis, c'est sûrement dû au changement de pays, etc. La langue, c'est ça ?
Exactement, oui. Quand on est rentré, donc il avait 13 mois. Donc on s'est dit, c'est normal, un enfant à 13 mois, il ne parle pas forcément. Oui. Des fois, il y a des enfants qui prennent un peu plus de temps. Donc, on ne s'inquiétait pas. Et puis, les mois sont passés. Et effectivement, au bout de quelques mois, on voyait que son langage ne se développait pas, qu'il ne réagissait pas trop quand on lui parlait, qu'il était quand même un peu différent. Mm-hmm. Mais on s'est dit, on va attendre parce qu'il a entendu la langue anglaise quand on était en Afrique du Sud. Et oui. Puis là, on est rentré, il entend le français. Donc, on s'est dit, c'est peut-être juste la différence de langage. Donc, on va attendre. Et puis tranquillement, et puis on s'inquiète pas, et puis on fait notre vie et on avance. Mais c'est vrai qu'après, plus les mois passaient, et plus il y avait quelques signes qui nous montraient qu'il était quand même différent. Et puis ayant eu Nathan, qui avait déjà lui 3 ans de différence avec Mathis, je savais comment un enfant fonctionnait, se développe. Et puis au bout de quelques mois, je me suis dit non, il y a quelque chose qui va pas comme pour les autres.
Ouais, tu me disais qu'il faisait des crises de pleurs par moment, qu'il avait absolument aucune raison, qui n'était pas expliquée.
Exactement. Des fois, il pouvait être dans sa chambre en train de jouer, et puis il se mettait à pleurer tout seul, sans qu'il y ait personne autour de lui, sans raison. Et donc ça a commencé à être de manière ponctuelle au fur et à mesure. Donc, et plus les mois passaient, et plus ça se multipliait, et plus ces crises de pleurs duraient. Des fois, au début, ça pouvait être 5-10 minutes, et puis plus les mois passaient, plus c'était long. Il pouvait des fois pleurer pendant une heure sans qu'on comprenne ce qui se passe. Et on essayait de le consoler, de lui parler, d'échanger avec lui, mais on n'avait pas de retour parce qu'il ne pouvait pas communiquer, il ne parlait pas. Donc, en fait, on ne comprenait pas du tout ce qui se passait à l'intérieur de lui, mais on savait qu'il y avait des choses qui se passaient, sauf qu'on ne pouvait pas mettre le doigt dessus et on n'avait pas la compréhension de ce qu'il était en train de vivre, en fait.
C'est super stressant quand même en tant que parent, j'imagine, parce que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne sais pas exactement ce que c'est. En même temps, tu te dis, tu sais, je veux être dans la foi, donc je veux rester super positive, mais comment on gère ça en tant que parent ?
Comment on gère ça? Je dirais, on l'a géré avec l'aide du Saint-Esprit. Ça a vraiment été une grâce. Parce que aujourd'hui, quand on y repense, si on n'avait pas le Saint-Esprit, ça aurait été vraiment compliqué parce qu'on aurait pu vraiment passer à côté et peut-être, au lieu de le construire, détruire des choses en lui que Dieu avait mis déposées en lui. Donc, on a en tout cas essayé chaque jour d'avancer avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'était pas toujours facile, on n'avait pas les solutions à chaque fois, mais on s'appuyait vraiment sur Dieu et chaque jour, c'était une nouvelle journée où on se disait ça va être une nouvelle étape, ça va être peut-être un nouveau défi, un nouveau combat, mais on regardait à Dieu et sa parole et on évitait en tout cas de regarder aux circonstances mauvaises qui étaient en train de se dérouler devant nous, même si c'était pas évident de le voir souffrir et de voir qu'il n'arrivait pas en tant qu'enfant à être heureux comme tous les enfants. temps. Donc ça, en tant que maman, ça, c'est vrai que pour moi, ça a été un cheminement assez, assez compliqué émotionnellement.
J'imagine, oui.
Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a porté. Mm-hmm. Et c'est une période aussi où je me suis vraiment plongée encore plus dans sa parole, à étudier sa parole, à écouter des messages aussi sur la foi. Mm-hmm. Parce que quand on vit chaque jour des défis comme ça, si on ne s'équipe pas avec la parole de Dieu et que notre foi ne grandit pas, c'est difficile d'avancer.
Ah, c'est sûr, mmh. C'est sûr. On a besoin de se fortifier vraiment au quotidien parce qu'on sait qu'il y a un combat qui est en face de nous, finalement.
Mmh, c'est ça.
Et vous avez eu un troisième enfant, la petite Eva, qui est venue agrandir la famille. Et puis, tu me partageais un événement qui a été quand même déclencheur de beaucoup de choses. Un dimanche de la fête des mères à l'église où tu décides d'y aller quand même. Hein. Tu me disais que c'était tentant de s'isoler parce que les circonstances étaient tellement compliquées, mais vous décidez de continuer votre vie. Et ce dimanche donc, de la fête des mères, vous allez à l'église et qu'est-ce qui se passe?
C'est ça, donc c'était un dimanche de fête des mères, donc on descend à l'église ensemble en famille. Et là, comme beaucoup de dimanches où on allait à l'église, Mathis fait une crise, donc les personnes responsables des enfants me font appeler et me demandent de venir parce que Mathis est en train de pleurer, crier, qu'ils n'arrivent pas à le gérer, donc j'y vais. Je prends Eva, je la remets dans sa poussette et puis je descends voir Mathis. Et là, je vois qu'il est dans une crise et que ça va pas être possible de le calmer et de rester. Donc je le prends, je le mets dans la voiture, je mets Eva dans la voiture aussi.
Il a quel âge à ce moment-là, Mathis, 2 ans à peu près?
Mathis, à ce moment-là, non, il avait un peu plus, il avait 4 ans.
Ok.
Il avait 4 ans à cette époque-là, il avait 4 ans. Donc je le prends, je demande à Nathan aussi son grand frère de venir, et puis on remonte tous les quatre à la maison. Et là, sur le chemin, je crie au Seigneur intérieurement, parce que les enfants étaient là dans la voiture, je voulais pas que le plus grand Nathan voit, me voit pas bien et... Il me voit en train de pleurer, donc je crie intérieurement, je dis « Seigneur, j'y arriverai pas si tu interviens pas, je pourrai pas continuer comme ça, ça devient trop difficile, je peux plus avancer, il faut que tu interviennes, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu changes, Mathis. » Et donc on arrive à la maison et puis Seigneur, ce jour-là m'a donné une réponse, mais qui n'était pas du tout celle que je voulais entendre et que je m'attendais en fait. Mm-hmm. Mais ô combien c'était une réponse qui allait tout changer et tout transformer et me transformer moi aussi.
Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a dit hein?
À ce moment-là, donc le Seigneur m'a dit « Est-ce que tu es prête à l'aimer, donc à aimer Mathis, même si je ne le change pas ?» Donc sur le coup, j'ai pas tout de suite réalisé. J'ai donné à manger aux enfants parce que c'était l'heure du repas. Mmh. Donc je me suis occupée d'eux. J'ai attendu que Steve rentre de l'église. Et puis quand je me suis posée quelques heures après, quand j'étais au calme, j'ai repensé à ce que Dieu m'avait dit. Puis j'ai dit Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? C'est pas ce que je t'ai demandé. à ce moment-là. J'ai compris que Dieu voulait me révéler quelque chose et me montrer quelque chose, voulait me faire comprendre quelque chose sur la situation. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon focus, en fait, n'était pas bon et que je commençais aussi à croire à un mensonge de l'ennemi, que Mathis ne changerait pas, que ce serait tout le temps comme ça, qu'on allait vivre encore des années comme ça. Et je commençais à croire, en fait, à un mensonge de l'ennemi. Et à douter aussi de l'amour de Dieu. Mmh. Et quand il m'a posé cette question-là, je me suis rendu compte en fait que moi-même j'avais besoin de changer ma perception de la situation et que j'avais besoin de comprendre que Dieu est là, que Dieu est avec nous et qu'il fallait juste que je relâche et que je lui fasse confiance. Donc j'ai dit à Dieu ce jour-là, Seigneur, oui, je continuerai à l'aimer, bien sûr. Et je continuerai à t'aimer, je continuerai à te suivre. Et j'accepte, même si je sais pas ce qu'il y aura devant nous, même si je sais pas comment on va gérer les semaines futures, les années futures, mais je te fais confiance et je décide d'avancer, même si je ne sais pas.
C'est ça, c'est que t'es dans l'inconnu, mais tu décides de lui faire confiance et tu relâches tout sur Dieu à ce moment-là, tu te décharges. Et en fait, ce que tu sais pas, c'est que tu t'y attendais pas, mais à ce moment-là, c'est comme un déclencheur parce que finalement, il y a un processus qui se met en marche parce que, en fait, tu t'es déchargé vraiment sur Dieu, t'as laissé le contrôle à Dieu et tu commences à avoir une évolution dans la vie de Mathis.
Exactement, oui. Ça s'est déroulé peut-être quelques semaines, même pas deux mois après ce moment-là. Mm-hmm. Deux mois après, en fait, on a reçu une parole à l'église, justement, un soir, où le Seigneur nous disait que l'ennemi a essayé de nous détruire, en fait, en utilisant nos enfants. Mmh. Et c'était exactement ce qui s'est produit. Et que le Seigneur disait, non, c'est fini, il y aura un changement. Et dès ce jour-là, en fait, on a cru, on a déclaré le changement sur la vie de Mathis. Oui. Et le soir où on a reçu, en fait, cette parole, c'est un soir où il a fait une crise. Donc, dans son sommeil, il s'est réveillé en pleurant et en hurlant parce qu'il se réveillait beaucoup les nuits.
D'accord.
À cette époque-là. Et puis, même le matin, il se réveillait, il pleurait. On savait qu'il était réveillé parce qu'il pleurait, en fait. Mmh. Donc, ce soir-là, quand on a reçu la parole et qu'il s'est réveillé, Steve lui a parlé, lui a dit, Mathis, c'est fini. Le Seigneur nous a dit aujourd'hui que ça va changer. Donc, wow. Tout va changer. Et depuis ce jour-là, en fait, le processus du changement a commencé. Donc, il s'est réveillé le lendemain matin. Et première fois depuis des semaines, même des années, où il se réveillait et où il n'a pas pleuré.
Ça, c'est une victoire extraordinaire, ouais. Pour des parents.
Ouais.
Là, vous voyez la main de Dieu.
C'est ça.
Et là, il commence à développer son langage, il commence à développer ses qualités relationnelles, etc. Vous voyez vraiment le changement qui se fait petit à petit.
Exactement. Donc, ça, c'était au mois de juillet. Donc, quand il est retourné à l'école, donc au mois d'août, parce qu'il était quand même scolarisé, oui. Même s'il avait du retard sur la motricité, de langage, on a décidé, malgré tout, de ne pas nous conformer aux circonstances.
Oui.
Donc, quand il est retourné à l'école, le directeur et même le professeur de sa nouvelle classe, en fait, le connaissait déjà parce qu'il avait déjà entendu l'année précédente dans la classe d'à côté. Donc
il entendait les cris.
Voilà, il entendait les cris et les pleurs. Donc lui, il s'attendait à ce que à la rentrée, ce soit compliqué, ce soit difficile. Et quand il a vu Mathis à la rentrée, il nous a dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il avait vu qu'en l'espace de deux mois, il y a quelque chose qui s'était passé en lui et qu'il y a un changement qui avait été opéré.
C'est merveilleux. Et le changement a continué à se développer jusqu'au même les médecins qui avaient prévu de poser un diagnostic d'autisme en fait sur la vie de Mathis. Finalement, ont eux-mêmes vu le changement. Tout a évolué. Aujourd'hui, comment il va, Mathis?
Aujourd'hui, c'est juste incroyable. Ceux qui ne connaissent pas son histoire, ne pourraient pas du tout imaginer ce qu'il a vécu. Aujourd'hui, c'est un enfant qui aime aller vers les autres, qui aime donner des paroles d'encouragement aux autres, qui arrive à s'exprimer, mais de manière incroyable, qui a une aisance au niveau de la parole qui est juste extraordinaire. Il y a encore un mois en arrière, il a passé un entretien parce qu'il va rentrer au collège, là, à la rentrée, en sixième. Il a passé un entretien avec le directeur de l'établissement et Steve et moi on était à côté de lui, donc l'entretien s'adressait principalement à lui. Mm-hmm. Nous on était à côté et puis on le regardait et puis le principal lui pose des questions, mais il a répondu avec une aisance mais juste incroyable. Et là on s'est regardé, Steve et moi, et on s'est dit c'est juste incroyable ce que Dieu a fait. Un enfant qui parlait pas, son langage était bloqué, qui était renfermé sur lui-même, et là quand on l'a vu échanger avec le principal, mais on dit qu'il a été habitué toute sa vie à faire des entretiens, c'est juste incroyable.
C'est merveilleux, et ça c'est l'œuvre de Dieu vraiment, et c'est grandiose. Et rapidement, j'aimerais qu'on prenne juste quelques minutes pour que tu puisses donner un conseil à des papas, il y a des mamans qui nous écoutent et qui vivent des situations similaires. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour les aider?
Alors je dirais comme conseil, il y en a pas des biens spécifiques. Je pense que chacun doit se laisser vraiment conduire par le Saint-Esprit et surtout ne pas ne pas abandonner, ne jamais baisser les bras et toujours croire que Dieu va intervenir, toujours croire et espérer que Dieu va agir. même si c'est long, même si parfois on voit pas, comme on dit, le bout du tunnel et que ça prend du temps. Toujours continuer à garder espoir et surtout garder la foi et ne pas baisser les bras et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous, c'est ce qu'on a fait chaque jour qui passait. On demandait au Saint-Esprit de nous aider à gérer des situations ou à désamorcer des crises, parce que des fois on essayait des choses par nous-mêmes, on n'y arrivait pas. Donc on demandait vraiment l'aide au Saint-Esprit pour nous guider, pour anticiper des situations.
Oui,
parfois aussi, parce que des fois, c'est mieux de les anticiper plutôt que de les subir.
C'est vrai.
Et ça, on les a développés au fur et à mesure. Ces anticipations, mais c'est vraiment avec l'aide du Saint-Esprit. Et je crois que chaque parent, de toute façon, Dieu va leur donner les capacités, la grâce, parce qu'on a tous une mesure de grâce pour chaque enfant. Qui est aussi différente, parce que je vois que ce soit avec notre aîné Nathan, Mathis et même Eva, qui sont tous les trois différents, on aura des mesures en fonction de chaque enfant. C'est vrai. Ça, je pense qu'il faut pas l'oublier et avancer vraiment avec la grâce de Dieu chaque jour.
Quel super bon conseil. Vraiment, merci Sandrine d'avoir osé raconter cette histoire. Et je crois vraiment que tu as encouragé des parents et que des parents ont été fortifiés par ton histoire. Donc merci d'être venue la partager.
Merci, c'était un honneur. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Vous voyez ce que Dieu peut faire, ce qu'il a fait dans la vie de Sandrine, ce qu'il a fait dans la vie du pasteur Donato et de sa fille. Dieu peut le faire dans votre vie, vraiment. J'aimerais vraiment que vous soyez encouragés par ces différents témoignages que vous avez entendus. Nadine en a parlé aussi. Que vous soyez encouragés dans votre foi à croire que ce n'est pas terminé. Peu importe depuis combien d'années votre enfant souffre, peu importe le diagnostic qui dit c'est incurable, c'est impossible, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu peut encore intervenir. Croyez encore, mettez-vous dans la foi avec nous. Nous allons vous associer à votre foi. Et pasteur Donato, tu vas pouvoir prier pour ces enfants malades, pour ces parents qui ont besoin d'être fortifiés. Et je crois vraiment que vous allez recevoir, si votre enfant est à portée de main, vous pouvez poser la main sur lui et vraiment vous saisir, comme on le disait, de cette autorité en tant que père et en tant que mère.
Mais oui, c'est ce qu'on va faire. Hein. Imposez les mains à vos enfants maintenant, là où vous êtes, et prenez autorité avec nous. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas ma prière, c'est la prière de chacun, mais elle est surtout soutenue par le Seigneur qui est avec nous. Amen. Dans le nom de Jésus, Père, je vois, tu vois tous ces enfants. Tu vois l'enfant de cette personne, tu vois l'enfant de cet homme, de cette femme qui est en train de poser sa main sur son enfant. Tu sais très bien la situation qui est difficile avec cette maladie qui est longue, qui est chronique ou peut-être même incurable. Seigneur, quand la main elle est posée dessus, Seigneur, c'est ton esprit qui vient, avec ton onction tu viens pour apporter la guérison à ces enfants. Entre-temps, Père, en attendant, même si la guérison n'est pas venue d'une manière directe, mais qu'elle est progressive comme avec Gabriella, nous te demandons d'encourager ces parents, alors qu'ils imposent les mains à leurs enfants, qui savent que tu es avec eux, que tu les encourages, que tu les fortifies et qu'ils puissent vraiment compter sur toi, pas sur eux, pas sur leur propre performance, mais sur l'œuvre de Jésus-Christ.
Amen.
Et sur tout ce que tu fais. Merci Père, parce que nous pouvons compter sur toi. Et nous sommes avec eux aussi dans la prière. Et nous voulons croire avec eux. Et nous croyons avec eux pour un miracle dans leur maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
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 Amen. Amen. Merci Pasteur Donato. Oui.
Une petite chose à dire vite fait. J'ai sur le cœur depuis un certain moment, mais je veux juste encourager les parents qui regardent. C'est pas d'être dans la foi que de ne pas aller voir un médecin. Si votre enfant a besoin des soins, ça veut pas dire que vous êtes dans la foi parce que vous allez pas chez le médecin. On n'est pas du tout contre les médecins, absolument pas. Et puis on croit dans la guérison divine et la foi, la persévérance, on hérite des promesses. Mais votre enfant, c'est votre enfant. Vous, ce que vous voulez faire en tant qu'adulte, vous le faites. Mais votre enfant, s'il a besoin des soins, je veux vraiment vous encourager. C'est pas dans la foi, forcément, de dire non, on va plus voir le médecain parce que ça peut être très dangereux. Il peut y avoir vraiment des choses très tragiques qui arrivent.
Absolument.
Je veux dire, je l'ai sur le cœur. Fait que si ça parle à quelqu'un, mais
c'est très bien. On marche avec la foi et on marche avec la sagesse.
Ouais.
Amen. Pasteur Donato, merci d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. Ces trois jours avec toi étaient formidables.
Merci. La même chose avec vous, avec moi. Vous êtes formidables.
Merci beaucoup. Et merci. Merci à vous qui nous avez suivis. Vraiment, j'espère, chers parents, que cette émission vous a fait du bien. Et si vous avez un témoignage à nous partager, que votre enfant a reçu sa guérison aujourd'hui, que vous voyez des améliorations, écrivez-nous à l'adresse témoignage@emcitv.com. On se réjouit de voir ce que Dieu fait dans vos vies. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Passez un merveilleux week-end. Soyez bénis et bonjour chez vous.
Savez-vous que EMCI a besoin de 8000 partenaires mensuels pour entrer dans une nouvelle saison? Je veux vraiment vous encourager à chacun de vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à devenir partenaire avec EMCI pour qu'on puisse voir cette belle œuvre porter beaucoup plus de fruits dans toutes les nations francophones.
Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.